13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Henri Tudor, 8e du nom sur le trône d'Angleterre, y est monté en 1509 sur ce trône, à la mort de son père, le remarquable roi Henri VII, dont nous dirons un mot tout à l'heure. Alors au départ, ce n'est pas lui qui devait régner, c'était son frère aîné, Arthur, qui avait épousé, alliance ô combien politique, la fille du roi espagnol, Catherine d'Aragon, en l'occurrence. Tout ça a mal tourné. Je dis évidemment parce qu'on connaît la suite. Nous, on sait très bien que ce n'est pas Arthur qui a régné. Le jeune prince était de santé fragile. Il finit par mourir et voilà Henri qui, à l'âge de 12 ans, devient donc héritier de cette couronne d'Angleterre si lourde à porter. Et bien entendu, pour ne pas créer de remous politiques, pour ne pas perdre, on peut dire, la dot espagnole qui était extraordinaire et qui n'était pas entièrement versée, on va le fiancer à sa belle-sœur, la jeune veuve Catherine, qui a 6 ans de plus que lui. Henri succède donc à son père en 1509, je vous l'ai dit, il a 18 ans, c'est un solide gaillard. Imaginez un personnage sanguin, au poil roux, plein de santé, plein de vie. Il est couronné le 24 juin de cette année 1509 et 6 semaines plus tard, donc, il épouse son ex-belle-sœur. Elle fait un peu vieille, on peut pas dire qu'elle ait l'air tellement joyeuse. C'est une femme confite en dévotion, engluée dans une étiquette qu'elle a importée avec elle. Ce mariage n'est pas un mariage d'amour, disons-le. Or, canoniquement, le mariage du beau-frère avec la belle-sœur est interdit. Le pape, certes, a fourni les dispenses nécessaires et vous pouvez faire confiance à la cour d'Espagne pour s'en être assuré. Cependant, ce mariage peut présenter un certain nombre de motifs d'annulation. L'union n'est pas consommée au moment du mariage. Évidemment, vous avez bien compris, nous sommes en présence d'un mariage de façade. Alors assez vite, le jeune et vigoureux Henri va contenter ses ardeurs hors de la couche de la reine, avec toutes sortes de jeunes beautés qui ne sont pas farouches. La reine, si elle n'a pas donné son accord, du moins ferme les yeux, tout le monde paraît content, sauf que les années passant, Catherine d'Aragon ne parvient pas à donner un héritier à son mari. Tous sont mort-nés à chaque fois qu'elle doit avoir un enfant. Ça se passe mal, ou alors ils meurent, les petits princes meurent vraiment en très bas âge. Il y aura un seul survivant, ou plutôt survivante, c'est Mary, c'est la future Marie Tudor, vous savez, celle qu'on appellera, que l'histoire a retenue sous le nom de Marie la Sanglante. Les années passent, nombreuses, le roi, disons-le, s'alourdit, son caractère, qui est un caractère très fort et qui, depuis l'enfance, se laissait deviner, son caractère se renforce, il s'impatiente de ce mariage sans fruit, il songe à la répudiation. Or, en 1526, il a 35 ans à ce moment-là, Henri VIII, vous voyez qu'on a avancé dans le temps, sa femme en a donc 41 à ce moment-là, il se trouve qu'il va croiser le regard, il va croiser, je devrais dire, les yeux noirs pleins de feu d'une jeune femme de 19 ans. Elle est divine, gracile, superbe, avec un teint d'ivoire, des cheveux de jais extraordinaires et puis un cou extraordinairement long, superbe, un corps à se damner, dit-on. Elle s'appelle Anne. C'est Anne Boleyn et l'on peut parler, je pense, d'un coup de foudre. Les billets du roi sont nombreux. Il faut dire qu'Henri VIII écrit très volontiers. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il lui écrit des lettres extraordinaires. Il lui fait toutes sortes de petits cadeaux. Ils ont des rendez-vous qui sont au départ des rendez-vous très chastes parce que l'intelligence d'Anne Boleyn, c'est de ne pas se livrer tout de suite. Elle fait, si je puis dire, croître la pression, elle fait monter le désir, c'est toute la cristallisation comme aurait dit Stendhal beaucoup plus tard. Elle se rend inaccessible. Mon honneur est ma vertu, telle est la devise qu'elle a choisie et bien entendu le roi pendant ce temps-là s'impatiente. Alors elle lui fait savoir que lui et lui seul, je la cite, aura jamais son cœur, mais pas avant qu'il se décide à se libérer de toute attache Vous comprenez de quelle attache on parle. Évidemment, il est facile pour le roi de se tourner vers le pape afin qu'il annule le mariage de 1509. Des procédures sont ouvertes auprès du Saint-Siège. On va appeler ça improprement du reste la question du divorce. Évidemment, à la cour de Grande-Bretagne, cela crée beaucoup de remous. Le cardinal chancelier Wolsey, qui est un peu l'homme pivot du règne, s'inquiète beaucoup. Il n'oublie pas tout de même que la reine Catherine est la tante du roi d'Espagne et empereur, Charles Quint. Anne est son ennemie. On a d'ailleurs, il faut dire que Anne a commencé à se moquer de ses propres origines et de sa légèreté. Wolsey supplie le roi de la renvoyer. C'est une grande et célèbre scène. En fait, disons-le, Henri VIII va s'appuyer sur cette nouvelle liaison avec Anne pour mettre en œuvre toute une procédure qu'il avait depuis longtemps mûrie. En fait, cette idée de répudiation n'est pas nouvelle. C'est le facteur déclenchant qui arrive avec la belle Anne. Mais le roi avait depuis longtemps son idée là-dessus. Henri VIII s'appuie, dit-il, sur les Écritures. Si un homme prend la femme de son frère, dit l'Écriture sainte, il commet un acte impur, il découvre la nudité de son frère, leur union sera stérile. Il aurait peut-être fallu s'en soucier un peu plus tôt de ce problème de droit canonique. Et si la reine acceptait de dénouer elle-même son mariage et se retirait au couvent, tout le monde serait content, l'intérêt du pape serait sauf. C'est en tout cas ce que laisse entendre le légat à la cour d'Angleterre. Catherine d'Aragon, cependant, ne veut rien entendre. Alors le pape tergiverse, il accepte la réunion d'un tribunal ecclésiastique, qu'on va appeler le tribunal des légats, qui est en effet présidé par deux légats. Imaginez tout le grand décorum pour juger une affaire qui, du coup, va être mise sur la place publique, va être jugée en grand et devant tout le monde. Le scandale est quasiment sans précédent dans l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui s'intéresse aujourd'hui au personnage d'Henri VIII, Franck.
Vous imaginez les deux prélats, on est au moment de ce grand procès qui doit régler la question du mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Les deux prélats vêtus d'écarlate, assis sous un dais, entourés des notaires, secrétaires, juristes, etc. Tant laïcs qu'ecclésiastiques du reste. Le roi et la reine sont introduits, on fait l'appel de leur nom. « Voici, mes seigneurs, crie Henri VIII. » Seulement la reine, elle, ne veut pas répondre. Elle s'est levée et elle va se jeter aux pieds du roi, ce qui crée bien entendu un premier incident. « Pendant ces 20 années, plaide-t-elle, j'ai été votre femme fidèle et par moi vous avez eu divers enfants, bien qu'il ait plu à Dieu de les retirer de ce monde, ce qui n'est pas ma faute. » Et elle ajoute « Quand vous m'avez prise pour épouse, elle est en larmes, Catherine, j'invoque Dieu comme juge, que j'étais tout à fait vierge, n'ayant jamais été touchée par un homme. » Elle se relève, elle fait une profonde révérence au roi, elle se retire, on voudrait la rappeler devant le tribunal, mais elle récuse la compétence de ce tribunal et elle disparaît. Alors, première question, est-ce que le mariage a été consommé? Alors, vous imaginez le défilé des témoins, des avocats, des experts. C'est un grand procès à rebondissement, dont le cardinal romain qui préside les séances ne cherche qu'à retarder l'issue. Il espère que le temps réglera la question. Et comme arrive le mois de juillet, on met le procès en vacances, selon l'usage romain. Le procès est donc ajourné jusqu'à l'automne. Le tribunal doit se réunir de nouveau en octobre. En vérité, il ne siégera plus. Et l'on voit Henri furieux. Il ne décolère pas. Il s'en prend naturellement à son cardinal chancelier, à Wolsey, qui est accusé, qui est disgracié. Ses biens sont saisis. Wolsey possédait un palais près de Westminster qui s'appelle Hampton Court. Henri le récupère pour lui. Il y donne d'emblée un grand banquet. Et à la place d'honneur, qui installe-t-il? Anne Boleyn. On jette Wolsey en pâture au Parlement qui depuis longtemps le déteste et en profite pour le condamner. Le prélat est transféré à la sinistre Tour de Londres, où il mourra avant son exécution. « Ah, dira-t-il, si j'avais servi Dieu au lieu de servir le roi, mon maître. »
Danse de la Gitane sur Europe 1, extrait de l'opéra Henri VIII de Camille Saint-Saëns, Franck.
Il paraît que depuis tout à l'heure, j'appelle ce pauvre cardinal, donc Premier ministre, oui. Si vous voulez, d'Henri VIII, Wolsey. C'est Wolsey, effectivement.
Wolsey.
W-O-L-S-E-Y. Alors, il a disparu de notre affaire, puisque vous avez bien compris qu'il avait déplu à son roi. Il n'avait pas été capable d'obtenir la répudiation de la reine Catherine, ou en tout cas l'annulation du mariage. Henri veut forcer les choses. Il impose Anne Boleyn. Il va même la faire recevoir en France par François Ier en présence des deux cours. Et le roi de France, assez galant, se prête au jeu. Il la reçoit littéralement comme une reine. À son retour à Londres, dans Hampton Court, donc dans ce qui est sa nouvelle résidence, Anne affiche une mine réjouie, elle apparaît couverte de bijoux et devant les courtisans qui s'inclinent, elle s'écrie « Seigneur, je voudrais une pomme, voilà 3 jours que j'ai une envie folle de manger des pommes » et puis elle rit très fort. « Savez-vous ce que cela signifie selon le roi ?» Et elle se hâte d'ajouter « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» Et puis elle éclate de rire et elle disparaît. Vous imaginez immédiatement toute la cour qui se met à... Mais si Anne était enceinte, on se met à parler. La rumeur se répand et l'on se demande si le roi ne serait pas bigame de fait. Cette fois, Henri a pris personnellement les choses en main et je vous prie de croire que l'affaire va être rondement menée. Un tribunal ecclésiastique anglais, cette fois, commence par annuler le premier mariage. La couronne notifie officiellement le remariage du roi avec Anne Boleyn. On prépare le couronnement de la nouvelle reine, ce qui est une façon incroyable de lancer un défi à la face du pape, à la face de Clément VII. Et 3 mois après le couronnement, Anne, effectivement, va mettre au monde un enfant, une fille. Cette fille, c'est Élisabeth. Elle aussi, on en reparlera, bien entendu, dans l'histoire. Elle sera plus tard la reine Élisabeth Ière. Le roi est très déçu que ce soit une fille, évidemment. Il doit s'avouer que tous ses efforts l'ont lassé. Or, au cours d'un voyage dans le nord du royaume, il est hébergé chez un grand seigneur qui s'appelle Seymour, dont la fille Jane est un peu, si vous voulez, l'antithèse de ce qu'est Anne Seymour. Elle est la fille d'honneur de la reine, cette Jane. Anne ne tarde pas à surprendre son mari, le roi, en galant appareil, si je puis dire, avec cette Jane. Elle réagit imprudemment, elle accable Henri, elle s'acharne sur la petite Jane, avec la complicité d'une de ces dames, elle décide d'avoir sa tête, et on met la reine, parce que maintenant il faut l'appeler la reine, Anne, on la met en garde. Elle est de nouveau enceinte, elle va accoucher d'un garçon, mais qui est mort-né. Henri est très amer. Or, la première femme, la reine Catherine, était morte entre-temps. On a eu des soupçons sur les causes de sa mort. Et si on l'avait empoisonnée, et si Anne l'avait empoisonnée, dans l'esprit d'Henri, il est temps de se débarrasser d'Anne Boleyn. Le chancelier Thomas Cromwell va dès lors monter un stratagème. On va se débarrasser très vite et physiquement de cette reine Anne qu'on avait eu tant de mal à épouser.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous nous penchons aujourd'hui sur Europe 1, sur le cas des Tudors, Franck.
Et on peut dire que l'histoire d'Henri VIII s'accélère. Vous savez, on pensait que Anne Boleyn avait été légère, qu'elle avait été galante, sans doute qu'elle s'était montrée trop ouverte aux hommages des beaux messieurs de la cour. Elle s'est notamment entichée d'un jeune chanteur et joueur de luth. Alors on interroge le chanteur, on le torture, il avoue, et d'autres gentilshommes sont arrêtés. Eux aussi sont torturés. Et finalement, Anne Boleyn est convaincue d'adultère. Le tribunal devant le tribunal qui a été constitué ad hoc, elle nie tout en bloc et c'est alors que survient l'accusation qu'elle n'attendait pas. On fait dévier le procès, on l'accuse d'avoir empoisonné la reine Catherine d'Aragon, l'ancienne reine, et d'avoir tenté d'empoisonner sa fille, Marie Tudor. Et les accusations montent d'un cran. Parmi ses amants, on finit par inscrire son frère. Elle serait donc coupable d'inceste. Le frère et la sœur sont traduits devant une haute cour. Des témoignages des témoignages convergents accablent le frère et la sœur. Le réquisitoire va traîner Anne dans la boue. Ses paroles émeuvent même mes ennemis les plus acharnés, dira-t-elle. Et le tribunal unanime la déclare coupable et la condamne à mort. Alors les cinq jeunes hommes qui ont été censés être ses amants subissent le supplice réservé aux traîtres. Quant à Anne Boleyn, à la Tour de Londres, on l'a fait attendre, on l'a fait languir jusqu'à ce que l'épée du bourreau ne tranche son si joli et si mince cou. On dit que sur l'échafaud, elle aura ces mots étranges en faveur du roi Henri. « Il a été bon pour moi et m'a bien traité, dit-elle. Je n'accuse personne de ma mort. » On a averti le roi de la mort d'Anne. Il était en villégiature. Il a fait avancer sa barque et se rend auprès de Jane, dont on déclare très vite les fiançailles. Et 10 jours après, c'est le mariage dans la même chapelle. Et bientôt, Jane est enceinte. Alors on voit Henri de nouveau rajeuni, transformé. Il est heureux. De fait, c'est un fils qui va naître cette fois, comme si enfin son union était bénie de Dieu. C'est le futur Édouard VI. Sauf que l'accouchement a beaucoup fatigué la jeune mère, qu'elle ne lui survit que de quelques jours. Vous imaginez le désespoir du roi qui se sent maudit, qui se sent littéralement damné. Alors il va chercher une autre épouse, Anne de Clèves. Ce sera un mariage sur lequel, dont je vous fais grâce, mais un mariage qui vraiment ne sera pas heureux. Et lorsque finalement, en 1537, après quelques mois seulement d'union, Anne de Clèves accepte le divorce contre quelques accommodements, disons-le. Henri est bien soulagé car à ce moment-là, son cœur d'artichaut s'est déjà épris d'une jeune femme de 20 ans, toute belle, toute mignonne, avec un beau teint de pêche, avec les yeux couleur de noisette. Elle s'appelle Catherine Howard. Eh bien, figurez-vous que cette Catherine Howard, elle aussi sera finalement accusée d'adultère. Sa vie abominable, bassement charnelle, voluptueuse et vicieuse, jetée en pâture à l'opinion publique. Alors les jeunes amants supposés de la reine sont découpés vivants en public, c'est horrible. Quant à la belle Catherine, elle est à son tour décapitée à la hache. Mais on se dit, mais est-ce que le roi va comme ça conduire à la mort toutes ses épouses ? Il y en aura une sixième, la dernière. Catherine part. Que va-t-il lui advenir à celle-ci ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en compagnie de mes invités. Alors je suis très heureux d'accueillir deux grands spécialistes de cette période, de cette renaissance, de ce beau XVIe siècle, en la personne de Liliane Crété, que je reçois pour la première fois dans cette émission. Je suis vraiment ravi. Liliane Crété, vous êtes l'auteur notamment des Tudors, réédités chez Flammarion en août 2010. Et puis Thierry Crépin-Leblond, que connaissent les auditeurs d'Europe 1. Il est le directeur du Musée National de la Renaissance, ce château d'Écouen, auquel je fais souvent référence ici, et j'invite évidemment nos auditeurs à se rendre chez vous à Écouen pour visiter la sublime demeure du connétable Anne de Montmorency. Alors, Liliane Crété, avant que nous ne revenions sur la personnalité, sur le règne d'Henri VIII que j'ai vraiment résumé à très très trop grands traits ici, rassurez-nous, dites-nous ce qu'il va advenir de la dernière épouse de ce barbe bleue, de cette Catherine Parr.
Alors je voulais vous dire tout de suite qu'ils ne sont pas toutes été tuées.
Non, certes.
Alors, Il y en a eu deux.
Oui, voilà. Anne Boleyn
et Catherine Howard. Qui l'a trompé comme il n'est pas possible. C'était devenu la risée de la cour. Il était bien obligé d'agir. Il en était très attristé. Alors, il était très émoustillé. Il était devenu un peu vieux déjà à ce moment-là.
La première, on a bien vu, Catherine d'Aragon a été reléguée. Elle est morte dans des circonstances un peu...
Elle est morte parce qu'elle était malade puis qu'elle a été tellement choquée par son sort, si vous voulez, la façon dont elle avait été traitée. Dire, vous avez relevé cette scène où elle se jette, et ça c'est exact, hein, parce qu'on dit tellement de choses qui sont fausses toute l'histoire d'Henri VIII, c'est facile d'ailleurs, mais ça c'est parfaitement exact, et il est très possible que le frère n'est pas touché sa femme. Il est en très mauvais état de santé, très fragile, il est très possible. C'est possible, mais on ne peut pas savoir ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé sur les archives, et donc, ce dont je parle, c'est ce qui est vraiment authentique,
évidemment.
Alors, dans la mesure où on peut faire confiance à des archives.
Alors, pour résumer, la seconde, évidemment, Anne Boleyn, elle a été exécutée.
Oui, mais là, je pense que c'était injuste, là.
Oui.
Vraiment. Parce que même ses conseillers contraires...
Elle était victime d'une cabale, il faut dire qu'elle n'avait pas été très habile. Hein,
une cabale qui voulait placer quelqu'un d'autre. C'était tout le temps comme ça, pendant tout le règne d'Henri VIII. Il y a eu des clans dans son conseil, comme c'était aussi dans la religion. Un côté qui penchait vers le protestantisme, l'autre côté qui penchait, et lui-même tenait la balance. Selon ses humeurs, selon ses idées, selon ce qu'il pensait. Il était très intelligent, comme tous les Tudors.
Le roi de France, à la même époque, François Ier, disait François souvent « femme varie », mais là, c'est le roi Henri VIII qui variait beaucoup.
Exactement.
Alors, pour, je finis avec les épouses.
Les
donc, avec les dames. Jane Seymour meurt, on l'a vu très peu de temps après son accouchement.
Oui, ça
c'est affreux,
parce qu'il l'aimait vraiment. Oui. Il a demandé d'être enterré à côté d'elle.
Exactement. Anne de Clèves est renvoyée gentiment chez elle.
Il l'a même pas touchée. C'est une histoire rocambolesque. Il avait envoyé le peintre Holbein parce qu'il voulait une jolie femme. Et Holbein en a fait une merveille, alors qu'elle était un espèce de grand échalas avec la poitrine flasque. Bref, il a eu un choc tel qu'il n'a jamais pu l'honorer.
Catherine Howard, on revit ce qu'on avait vécu avec Anne Boleyn, mais en pire encore.
Mais Anne Boleyn, je crois qu'elle était légère comme ça, mais je ne crois pas qu'elle ait trompé.
Que Catherine Howard,
c'était, elle a repris ses anciens amants, elle en a eu d'autres, alors là, c'était, puis elle ne se gênait pas. Donc c'était vraiment officiel, il a été obligé de... c'était son honneur, il a été obligé de l'exécuter.
Et puis, la dernière, alors, dites-nous ce qu'est devenue Catherine, la sixième épouse.
Elle a survécu, elle a épousé après sa mort l'homme qu'elle aimait, parce que finalement, au moment, elle était même veuve deux fois, et après la mort de son second époux, elle voulait épouser un garçon qu'elle aimait beaucoup, qui était aussi un compagnon de jeunesse de Henri VIII, et naturellement, Henri VIII a dit « Non, je la veux pour moi, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là » hein, c'était ça. Donc elle s'est sacrifiée, et elle a été formidable d'intelligence. Lui, à ce moment-là, il était très malade, il avait des ulcères sur les jambes, il souffrait beaucoup.
Justement,
et c'est une sorte d'infirmière pour lui.
Si vous voulez, Liliane Gréthé, nous revenons sur la maladie et sur la mort d'Henri VIII dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Cruel souvenir, l'air de Catherine. C'est un nouvel extrait sur Europe 1 de l'opéra de Camille Saint-Saëns, Franck.
Dans cette brumeuse Angleterre, je meurs sous un pâle soleil. En janvier 1547, le roi, qui était donc de plus en plus malade, doit garder le lit. On a longtemps cru qu'il allait succomber aux atteintes de la syphilis. Mais si j'en crois une étude récente, et nous allons voir ce qu'en pense Liliane Gréthé dans un instant, il semblerait que le mal qui rongeait cette énorme carcasse boursouflée d'un roi d'Angleterre devenu énorme, disons-le, était en fait le scorbut. Et oui, il semblerait qu'Henri VIII, comme beaucoup des seigneurs de son temps du reste, ait beaucoup négligé les fruits, les légumes au profit de viandes diverses, beaucoup de gibier faisandé, de sauces, et qu'il ait contracté le scorbut par carence alimentaire. En attendant, le roi est à l'agonie, et qui croyez-vous qu'il appelle comme confesseur à son chevet? Eh bien, l'archevêque de Canterbury, qui était à l'origine du schisme. On va venir sur cette question religieuse qui est au cœur, évidemment, de tout le règne d'Henri VIII. Le roi s'éteint à 2h du matin dans la nuit londonienne, comment dit Françoise Paulet, dans cette brumeuse Angleterre, dans la nuit londonienne glaciale du 28 janvier 1547. Et à sa demeure, son corps sera déposé au château de Windsor, auprès de celui de sa troisième épouse, vous nous le disiez tout à l'heure, Jane Seymour, la seule finalement qu'il ait pleuré, j'ai envie de dire, la seule qui n'ait pas encore eu le temps de haïr, puisqu'elle est morte avant.
Il était très capricieux, nous dirons, mais il a assez aimé, mais vous savez que la dernière aussi, à un moment donné, il écoutait un peu trop tout ce qui se passait autour de lui. Et il y a eu un moment donné où sa dernière femme a été aussi menacée de du pire, probablement. Mais c'est un personnage tout à fait étonnant parce qu'il mélange le raffinement des princes de la Renaissance avec une brutalité sans pareil.
Alors ça, c'est un peu le personnage qu'on nous a vendu, si je puis dire, dans la célèbre série télévisée. Sauf que le Henri VIII qu'on voit, qui est interprété par
John
Rhys-Meyers, c'est ça ?
Exactement.
Oui, c'est bien ça.
Très beau, très
élégant. Très beau, mais
oui.
Tout petit, tout mince.
Ça n'a rien à voir avec l'espèce de géant qu'était Henri VIII.
Pour son époque, il était très grand, je crois. Il avait plus d'1m80, en tout cas.
Oui, c'est ça. Et puis très gros aussi, disons.
Il est devenu, comment disaient les gens, vous savez, les rumeurs, c'est en général les ambassadeurs qui écrivent. C'est merveilleux, hein. Ce sont les commères de l'époque. Ils disaient, il est devenu un peu grasset.
Un peu grasset, c'est le moins qu'on puisse dire, en l'occurrence. Alors, je disais à l'instant que la grande question de ce règne, c'est cette question religieuse.
Absolument.
L'Angleterre quittant le giron de l'Église romaine pour créer sa propre Église, c'est une responsabilité invraisemblable que prend ce roi. Il fallait un courage, caractère hors du commun ou une inconscience peut-être.
Non, il y a eu deux hommes qui ont fait la rupture. Cranmer
donc,
qui est devenu
donc l'a confessé sur son lit de mort.
Qui était un homme d'État remarquable. Ça, c'est une chose, c'est qu'il a su s'entourer de gens remarquables. Et c'est eux qui ont...
C'était des réformés.
Ça a duré 6 ans passés.
Cromwell était un réformé, est-ce qu'on peut dire ça ?
On peut pas dire, il penchait vers les idées luthériennes. On en était encore là, on disait pas le mot protestant, on le disait peu en tout cas. Et comment se débarrasser donc de cette pauvre Catherine qui y était pour rien, la pauvre Catherine d'Aragon ? Et en même temps, c'est venu comme ça la seule manière d'annuler le mariage, c'était de sortir, de rompre avec Rome. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et ça a duré 6 ans passés. Ce qu'on a appelé le Reformation Parliament, que justement Cranmer et Cromwell, donc, en étaient responsables. Ils ont réussi à trouver une vieille loi datant probablement des Normands, la loi de prémunéré, qui disait qu'il était impossible pour un sujet britannique d'être jugé par un tribunal étranger ou par une nation étrangère. Et ça leur a servi, mais ça a duré 6 ans. Ils ne voulaient pas de rupture. Ils voulaient être considérés dans l'Europe. Et alors, ce qui est très drôle, parce qu'il y a toujours dans les histoires comme ça des choses drôles, il a demandé aussi conseil à des théologiens, à des juifs aussi, des savants juifs, enfin. Et il y a eu un mélange de réponses tout à fait étonnante.
Oui, c'est-à-dire que...
Entre accepter la polygamie, après tous les patriarches dans la Bible étaient polygames...
On remettait en cause les fondements même de la société. Et ce qui est étonnant, c'est que celui qui était le plus impliqué dans l'affaire était le roi lui-même.
Absolument.
Il l'a peut-être fait, nous dites-vous, parce qu'il avait une confiance aveugle dans Cromwell. Et pourtant, ce Cromwell, il va le faire lui aussi. Arrêter, condamner, exécuter... Vraiment, il ne faisait pas bon s'approcher trop près d'Henri VIII.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale des Tudors, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement Jonathan Rhys-Meyers qui interprète Henri VIII. Et ce qu'on peut dire, c'est que les réactions d'auditeurs affleuvent sur Europe 1.fr.
Oui, bien entendu. Et Emmanuel, qui est professeur d'anglais en collège, nous dit que ses élèves, même ceux qui s'intéressent a priori le moins à sa discipline et à l'histoire, se passionnent pour Henri VIII. Merci la télé, vous voyez que ça sert quand même à quelque chose. Alors, elle nous donne, Emmanuel, un moyen mnémotechnique pour retenir le sort des six épouses d'Henri VIII. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived, c'est-à-dire divorcée, tête tranchée, morte, divorcée, tête tranchée et a survécu. Comme ça, on sait le sort réservé à chacune d'entre elles. Bonjour Thierry Crépin-Leblond.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous vous occupez évidemment de ce merveilleux musée de la Renaissance qu'est le Château des Coins, avec notamment ces somptueuses cheminées peintes qui à elles seules valent le voyage jusqu'à Écouen. C'était au départ la demeure du connétable de Montmorency. Alors, à cette époque-là, les liens entre l'Angleterre et la France sont extrêmement nombreux. Et ce qui est étonnant, c'est de voir le rapport d'amour-haine entre ces deux frères ennemis que sont François Ier et Henri VIII.
En fait, ça n'a pas changé depuis la guerre de Cent Ans et les mariages du temps de Charles VI. Henri VIII se revendique toujours roi de France.
Oui, au passage.
Et il a une culture en partie francophone. Anne Boleyn a passé plusieurs années à la cour de France et participe
de ce goût. Son père était émissaire, en fait.
Hein, oui, il était ambassadeur et elle a été dame d'honneur au moins de deux duchesses en France. Et donc, il y a une passion normale quand on veut être homme de goût, et Henri VIII, là-dessus, le feuilleton n'a peut-être pas complètement tort, comme le film Un homme pour l'éternité avec Robert Shaw, c'est un dandy. On a l'inventaire complet de ses biens, il y avait 55 châteaux, 2000 tapisseries, mais aussi une garde-robe époustouflante. Et les portraits de Holbein, entre autres, nous en gardent un souvenir plein d'admiration.
Il avait une collection d'œuvres d'art absolument phénoménale.
Voilà,
est-ce qu'on peut dire qu'il est à l'époque le plus grand collectionneur d'Angleterre, le roi lui-même ?
Oh, très certainement, parce qu'il sait réunir ce qu'il faut, il sait prendre justement aux familles d'alliance, hein, que ce soit les Seymour ou les Howard, il y a eu tout un effet là aussi d'émulation, et il sait se faire donner des cadeaux comme il en donne. On a un formidable portrait de Frédéric de Montefeltre à Urbino, arborant fièrement la jarretière. Donc là aussi, ça se récompense avec des cadeaux d'œuvres d'art.
Une partie des grands châteaux historiques d'Angleterre doivent beaucoup à cette période en général et à Henri VIII en particulier. Une partie des décors que nous connaissons dans cet éternel Royaume-Uni, finalement, sont ceux du règne de ce roi.
Exactement, et c'est pas pour ça que dès le 19e siècle, on parle de style Tudor, un style dans lequel on vit quotidiennement encore maintenant en Angleterre. Et c'est vrai qu'il a su, par exemple, se débarrassant de Wolsey, lui récupérer Hampton Court. Et on a des décors de toute première qualité qu'il a voulu enrichir. Ce qui est un peu plus dommage, c'est que l'incendie de Londres nous a prié de Whitehall. Et d'autre part, il avait fait faire un contre Fontainebleau. C'est-à-dire, dans cet amour-haine avec François Ier, il a débauché un Italien, Nicolas Belin de Modène, il lui a fait passer la Manche, c'était à la fois un peintre et un stucateur, et il lui a fait faire l'époustouflant château de Nonsuch dans le Surrey, malheureusement détruit, dont on a d'excellentes aquarelles, qui en fait en font une copie à la fois de Fontainebleau pour le décor intérieur, et du château de Madrid au bois de Boulogne, entièrement recouvert de faïence pour le décor extérieur.
Est-ce qu'on peut dire, Liliane Crété, que cet homme tellement tourmenté, car le moins qu'on puisse dire est que l'âme du roi Henri VIII était vraiment constamment bouleversée, tourmentée, cherchait un refuge dans l'art et dans les belles choses?
Je ne crois pas. Il était très sûr de lui. Je crois que c'était un homme tranché, si vous voulez. Et vous avez parlé de l'amour-haine avec François Ier. Moi, je ne dirais pas amour, je dirais envie.
Envie, oui, c'est ça.
Haine.
D'où le fameux camp du drap d'or, cette entrevue.
Le camp du drap d'or, où il a dépensé un argent fou pour faire quelque chose en toile, mais somptueux, pour montrer à... Vous savez, c'était un petit pays, l'Angleterre.
C'est ça, il faut bien se remettre ça dans l'esprit.
Il faut se mettre ça.
Il n'y a pas encore le grand empire colonial, bien sûr.
Et puis, il y avait juste le pays de Galles. Lui-même, Tudor, était un Gallois, d'ailleurs. D'où les problèmes, parce qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, je crois, c'est qu'il avait peur d'être... que sa famille ne retienne pas, parce que la dynastie Tudor n'a pas hérité de la couronne. Il l'a conquis, son père, Henri VII. Donc, je crois que c'est ça aussi qui a motivé. Mais il était très sûr de lui. Il n'était pas... Ses états d'âme, c'était de se plonger dans la bile, mais pas tellement pour y trouver le chemin du salut, pour changer les choses qui lui plaisaient pas. Ça montre tout de même un caractère extraordinaire. Et Cranmer était affolé quelquefois. Il voulait changer des choses dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien. Ah non, non, ça me plaît pas, il faut changer. C'est extraordinaire quand même. Donc un homme très sûr de lui, beaucoup plus que ça. Mais un fantasque, voilà. Complètement fantasque.
Avec des lubies,
oui.
Avec des foucades. Et évidemment, ces hommes de pouvoir absolu. Font un peu peur, parce qu'on ne savait jamais si du jour au lendemain, ils n'allaient pas changer d'avis.
Exactement, c'était ça le problème avec Henri VIII.
On approchait un peu de l'ogre, en fait.
Il aimait la musique, il a écrit lui-même des œuvres. Il a aussi écrit des œuvres théologiques assez moyennes. Et en musique, je crois que c'était mieux. Et il aimait la musique, il aimait la danse, il était... Je vous dis, les Tudors étaient des gens quand même assez extraordinaires, très, très intelligents.
Je voulais citer des extraits de votre ouvrage, Liliane Crété, Les Tudors, réédité donc dans la collection Chants Histoire, merveilleuse
c'est
collection
ça.
De chez Flammarion. Ce sera pour une autre fois,
ah, oui.
Mais vous racontez l'histoire avec tellement de feu que je sais déjà que vous serez des nôtres dès que nous aurons un sujet en rapport avec cette renaissance extraordinaire
et toutes
ces questions religieuses aussi que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui, mais qui sont fondamentales pour comprendre non seulement le règne d'Henri VIII, mais d'une façon générale, toute cette époque de très grandes mutations et perturbations.
Absolument. Et en tant que toéologienne, vous pensez bien que je
bien
me suis
entendu.
Intéressée par
ça. Merci beaucoup Thierry Crépin-Leblond d'être venu. On peut donner à nos auditeurs un conseil. Filez au château d'Écouen.
Vous y verrez notamment la tenture de David et Bethsabée, récupérée par Henri VIII pour être le nouveau David avec une Bethsabée à Angoulême.
Alors vous n'avez aucune excuse si vous n'y allez pas.